gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Pickets, do you feel good? Comment ça va?
Vous êtes bien dans la causerie sur Radio Canu, donc vous nous écoutez soit sur le 102.2, soit par internet, donc sur le site de Radio Canu. Et nous vous rappelons le blog, donc blogs au pluriel .radiocanu.org/la causerie. Vous pouvez aussi nous envoyer des petits messages sur la causerie canu tout attaché @gmail.com. Et évidemment, vous pouvez nous retrouver sur un des réseaux sociaux les plus étendus de l'univers, dont je ne citerai pas le nom. Voilà.
C'était tout bien fait.
T'as vu? Et autour de la table ce soir, nous avons Fabien.
Salut.
Jean-Yves.
Bonsoir.
Clara la technique.
Bonsoir.
Et puis, bah,
et puis Jonathan.
Bah, Jonathan,
évidemment.
Qu'on ne présente plus.
Qu'on ne présente plus.
Bah si, quand même.
Ah bah voilà.
Et on va saluer Nadège et Emma qui ne sont pas là ce soir. Parce que bon, bah, même quand elles ne sont pas là, on pense très fort à elles et on fait des bisous. Voilà.
Des bisous.
Et bah, je ne suis pas rangé le micro, je vais le garder. Avant de démarrer cette émission, on avait envie d'avoir une pensée pour toutes les victimes d'attentats partout dans le monde, que ce soit au Liban, en France ou bien partout dans le monde, parce que les actes très lâches qui consistent à flinguer des gens qui n'ont rien demandé sans vraiment sans vraiment d'autres idéologies que la haine, hein, on va dire ça comme ça, ça agace où que ce soit dans le monde pour la causerie. Et puis bah, rappeler quand même qu'on a aussi une pensée pour les victimes des nombreux conflits qu'il y a aussi dans le monde en ce moment. Et comme on le dit souvent dans la causerie, guerre à la guerre, car la guerre, quelle que soit l'idéologie qui la porte, c'est de la merde. Voilà.
Eh ben, formidable. Est-ce qu'on...
relance-moi.
Attention, prépare-toi.
Et c'est parti.
Alors, superbe effet.
Oh, c'est beau.
Oui. Hein. Et donc, c'est Fab. Tu vas ouvrir la causerie,
oui,
en nous causant
de Télérama.
Ouais, c'est ça. Ouais, pas que de ça. D'un article autour,
oui,
des geeks.
Alors c'est un article en fait qui est de Télérama, effectivement, qui m'a un peu surpris parce que je faisais de la recherche sur totalement autre chose que les geeks au départ, mais pour un sujet dont je parlerai dans la causerie une prochaine fois. Et puis ben vous savez, sur internet il y a toujours les liens connexes comme on dit, et puis on clique, et je suis tombé sur cet article qui parlait de la culture geek et d'une culture qui est donc passée de la marginalité à la généralité, c'est-à-dire qui est devenue la culture dominante dans le monde aujourd'hui, enfin dans le monde riche aujourd'hui, précisons-le, c'est-à-dire États-Unis, Europe et Japon, pour faire simple, et qui s'implante très très bien aussi en Chine en ce moment, avec l'émergence d'une classe moyenne assez forte en Chine. Et ça m'a intéressé parce que, en fait, dans cet article, il y a une phrase de Simon Pegg. Alors, pour ceux qui connaissent Simon Pegg, c'est le gars qui ne le connaissent pas, c'est le gars qui a fait Shaun of the Dead, Dernier Pub avant la fin du monde, qui a joué dans les Star Trek 1, 2 et 3, et qui co-réalise le troisième. Enfin bref, vous voyez, c'est un peu un geek quand même, hein, le gars. C'est un acteur britannique, il est roux, pour ceux qui voient un peu sa tête. Il a aussi joué dans Paul, qui est un excellent film, voilà. Et ce gars, en fait, qui est quand même un geek revendiqué, un jour, il s'est un peu posé la question, il s'est dit, mais à quoi joue l'industrie du divertissement avec cette culture. Et il est sorti une phrase comme ça, il a dit « L'industrie du divertissement entretient notre flamme et pour nos passions d'enfants afin de nous tenir à l'écart des vrais problèmes, les inégalités, la corruption, l'injustice économique, alors que le fantastique est théoriquement le véhicule pour les métaphores sociales les plus puissantes. » Donc c'était intéressant, je trouvais, d'avoir cette phrase qui était mise en exergue dans cet article et qui, quand même, interroge sur la notion, cette personne qui est geek au départ, il le dit, il est geek depuis l'âge de 14 ans, il trouve qu'aujourd'hui, alors que la culture geek est largement majoritaire, en fait, on s'en sert pas du tout à ce qu'elle était au départ et qu'on s'en sert plutôt pour abrutir les gens et un petit peu les maintenir un petit peu dans un vase clos, on va dire. Alors c'est intéressant parce que je me suis amusé à décortiquer cette phrase, je suis pas reparti de l'article exactement de Télérama, parce que ça me semblait intéressant les trois axes qui soulignaient dans cette phrase. Alors justement pour la science-fiction, on est passé de l'anticipation sociale à science-fiction de divertissement. Je vais m'expliquer. Au départ, la science-fiction, c'est un moyen d'apporter une critique sociale. Tous les écrits de science-fiction sont en fait basés sur la critique sociale. Quand on regarde les grandes œuvres de science-fiction à partir des années 40, c'est des œuvres de critique sociale. Alors, il y a des auteurs très connus. Par exemple, il y a Philip K. Dick, qui est un des très grands auteurs de science-fiction américaine, et qui, lui, faisait de la dystopie. Alors, la dystopie, c'est comme l'utopie, mais en négatif. C'est-à-dire qu'au lieu de vous dire que le monde va aller mieux, vous regardez le monde tel qu'il est aujourd'hui, puis vous prenez ce qu'il y a de pire, puis vous l'emmenez vers le futur pour que ça devienne un monde vraiment terrible. Et en fait, Philip K. Dick, qui était un peu fou, tout le monde le dit, il était un peu paranoïaque, mais il avait des écrits très très intéressants où justement il soulevait des questions de nos peurs primaires et de nos peurs générales. Et c'est lui, par exemple, qui avait écrit ce qui a donné le film Minority Report. Alors pour ceux qui connaissent Minority Report, c'est un troupe de flics qui aurait 4 personnes capables de prédire l'avenir, qui en fait prédiraient les crimes avant qu'ils arrivent, et eux ils pourraient arrêter la personne avant que le crime ait lieu. Ce qui est quand même antidémocratique par définition, parce qu'en fait ils disent peut-être qu'il va arriver le crime, mais on l'arrête et on dit voilà. Ça vous rappelle peut-être l'actualité d'aujourd'hui où il y a des gens qui veulent enfermer 11 000 personnes en disant on sait jamais. Vous voyez, c'est un peu le même principe. Alors critique sociale, vous voyez, très forte. Et Philip K. Dick, il avait par exemple écrit ça, et le film en fait qui en est sorti, et c'est ça qui est intéressant, il est totalement aseptisé. Moi, j'avais lu le livre qui a donné le film, et le livre en fait disait en gros que tout état policier est un état totalitaire. Dans le film, on vous dit, ce qui pose problème, c'est juste l'outil des précogs, c'est-à-dire du fait de faire de la précognition. Mais le reste, ça va. Alors que dans le film, les flics, ils ont quand même tout pouvoir. Ils ont des bagnoles. Enfin, dans le livre, ils ont des bagnoles de ouf pour qui peuvent écraser les gens. Ils ont le droit d'écraser les gens pour les arrêter. Donc, vous voyez, on est dans une société totalitaire, quoi. Mais le film dit, le seul problème, c'est quand même le fait qu'on utilise des précogs. Le reste, ça peut aller. Alors que dans le livre, très clairement, en fait, il va beaucoup plus loin que ça. Il explique que toute société totalitaire, toute société qui abandonne une part de liberté au profit de la sécurité, est une société morte d'avance. En fait, c'est vraiment la base de son livre. Donc, on voit un premier exemple. Et un deuxième exemple avec l'œuvre de Lovecraft, qui a inventé Cthulhu, vous savez, le dieu des enfers, voilà. Et Lovecraft, en fait, quand il écrit, lui, il avait dans l'idée de parler des peurs des humains. Et de leur côté, un petit peu mégalomane et pervers. Parce qu'il dit, il y a des humains qui sont très bons, mais il y a des humains qui sont très très pervers et très très mégalomanes. Et en fait, à travers Cthulhu et à travers les adorateurs de Cthulhu, en réalité, Lovecraft, il fait une description de ce qui est le phénomène sectaire. C'est le phénomène d'enfermement, être sûr d'avoir raison à tout prix, être prêt à faire appel à des puissances supérieures pour tuer en leur nom. Ça aussi, ça doit vous rappeler l'actualité. Vous voyez, c'est un petit peu des choses intéressantes parce qu'on voit que, il y a une critique sociale très forte dans les œuvres de science-fiction et dans les œuvres fantastiques qui n'existent quasiment plus au cinéma. Parce que si vous regardez les adaptations qui ont été faites des œuvres de Lovecraft, on en fait juste des très bons films d'horreur. Mais alors, par contre, toute la critique sociale qui est derrière, elle disparaît. Et de la même chose arrive avec Tolkien. Tolkien qui écrit Le Seigneur des Anneaux, je vous rappelle, et puis Le Hobbit, voilà. Alors, on fait des très bonnes adaptations cinématographiques, puisque les films sont magnifiques, sont très bien interprétés. Par contre, on oublie un tout petit peu d'y remettre la critique qu'il y avait de la société de consommation qui était dans les livres au départ. On passe un peu à côté quand même. On fait un univers très très beau, machin et tout. Par contre, toute la partie de Tolkien, les dialogues notamment sur la machine-outil, l'usine qu'il y a dans Le Seigneur des Anneaux, tout le dialogue qu'il y a sur l'asservissement par des rois injustes et impurs, tout le dialogue qu'il y a sur l'asservissement des peuples par eux-mêmes quand ils choisissent un dirigeant et que finalement ils s'en remettent qu'à ce dirigeant puis qu'ils oublient de réfléchir, tout ça vous l'avez pas dans le film par contre. Ces dialogues-là, ils ont tous sauté, vous pouvez en être sûr. Par contre, vous les avez dans l'œuvre. et c'est un petit peu ce que souligne Simone Pegg. C'est qu'en fait, la culture geek au départ, parce que tout ça fait partie d'une culture geek, elle est beaucoup plus critique, mais quand elle s'est massifiée, elle devient complètement aseptisée. Donc c'est le premier aspect de cette culture geek. Et alors, les meilleurs exemples, c'est les films de super-héros. Marvel et DC Comics ont produit 40 films de super-héros en moins de 10 ans. C'est-à-dire que c'est la principale production à grand budget au cinéma aujourd'hui, c'est les films de super-héros. Mmh. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est ce que souligne Stan Lee, un des papas des super-héros, hein, des comics. Il dit, mais le problème des films, c'est qu'ils sont ultra aseptisés par rapport à ce qu'étaient les comics eux-mêmes, la BD elle-même. C'est-à-dire que dans les super-héros, dans notamment les X-Men, vous aviez déjà, dès les années 50, des interrogations sur la ségrégation raciale. En fait, les X-Men, quand vous regardez bien, ce n'est en réalité que des gens différents qu'on essaye de mettre de côté de la société. Toute la réflexion sur la ségrégation est dans le livre d'origine. Et ces gens, en fait, s'avèrent avoir des pouvoirs qui leur permettent d'être appréciés de l'humanité. Mais c'est toute la questionnement est là. C'est-à-dire que vous avez deux camps dans les X-Men, les méchants avec Magneto, les gentils avec le professeur Xavier. Et on va le dire ça parce que c'est pas si simple, justement. C'est qu'en fait, les méchants sont pas si méchants, ils ont pas forcément tort sur tout. Et puis les gentils, ils ont pas toujours raison non plus. Sauf que là, bah, dans les films, vous avez clairement les méchants, les gentils, quoi. Et vous avez plus cette espèce de flou qui est de dire, voilà, pourquoi? Parce que dans le Magneto dit, l'humanité ne nous acceptera jamais, elle nous aime que parce qu'on l'aide, et que si on lui servait rien, elle nous détruirait. Et il faut savoir que le personnage de Magneto sort des camps de concentration au départ, à l'origine. D'accord. Donc vous voyez, il y a toute une filiale. Tout ça, en fait, disparaît quasiment des films. C'est là que c'est grave, parce qu'en fait, toute la critique sociale véhiculée disparaît. Alors après, il faut être clair que la culture geek, c'est une culture majoritairement blanche et riche. Elle naît aux États-Unis, dans la classe moyenne blanche, et donc avec des gens qui ont plutôt les moyens. Et le problème, c'est que cette culture geek, elle avait commencé à faire son autocritique dans tout ce qui était BD, sauf qu'au cinéma, elle l'a pas du tout fait encore. Et que du coup, ça charrie encore énormément d'homophobie, énormément de racisme, énormément de culture très très blanche, dans le sens où en fait, tous les super-héros sont blancs, quasiment. Hein. Il suffit de regarder un petit peu ceux qui sont au cinéma. Alors que si vous regardez les BD, il y en a plein qui sont pas blancs. Mais par contre, au cinéma, on met que des blancs. C'est un peu embêtant quand même. Et puis, il y a toute la violence aussi. Parce qu'en fait, la culture geek, elle est basée sur une notion de violence qui est un peu intrinsèque à cette culture. Parce qu'en fait, il y a toujours la notion d'affrontement. Dans toutes les grandes histoires, il y a des affrontements, des guerres, des choses comme ça. Sauf qu'elle n'est pas du tout traitée au départ dans la culture d'origine comme elle est traitée au cinéma aujourd'hui. Aujourd'hui, elle est traitée de façon plutôt militarisée. Mmh. Alors que dans les cultures d'origine, c'est plutôt des gens qui s'auto-organisent parce qu'ils n'ont pas le choix. Petite nuance quand même, hein. Bon, je parle pas de Captain America, hein, parce que ça, c'est un gros truc de propagande, ou de Superman. Mais dans les autres BD, il y a plus de nuances qui n'existent plus au cinéma. D'ailleurs, il y a un vlogueur lyonnais qui s'appelle Usul, et on espère peut-être un jour l'avoir autour de la table ou pas, on sait pas, et puis si c'est pas non, tant pis. Mais Usul, si tu m'écoutes, viens bien me répondre. Et qui explique que c'est une culture d'homme blanc qui charrie le racisme, le sexisme et l'homophobie ordinaire de l'homme blanc. Et ça, c'était son résumé, et il a pas totalement tort, parce que la culture geek est majoritairement américaine, et que du coup, elle en a les travers. Donc voilà, c'était pour dire que on voit que il y a du boulot. Alors il y a quand même une critique en interne qui est très forte, qui se met en place, et notamment des blogueuses et des vlogueuses qui attaquent fortement cette culture machiste et raciste. Mais il faut voir un petit peu que ça prend énormément de temps pour que les studios de masse fassent dériver cette culture-là en prenant en compte les critiques. Ce qu'avaient fait les BD beaucoup plus vite en fait, ou les livres. Donc c'est ça qui est bizarre. Voilà. Mais on sait bien qu'Hollywood a toujours 30 ans de retard sur la société. C'est pas une grande nouveauté. Et puis, il y a quand même quelque chose qui est intéressant à voir, c'est qu'aujourd'hui, les geeks prennent leur revanche. C'est une culture qui naît de la consommation de masse et qui naît du capitalisme, pour être très clair. Mmh. La meilleure exemple, c'est Star Wars. Star Wars, au départ, il faut savoir que les produits dérivés ont plus rapporté que les films. Mmh. Ce qui est quand même un peu fou. Mais les films, en fait, ont rapporté, et c'est là que je suis un peu devenu fou, les films ont rapporté 17 fois moins que les produits dérivés. C'est-à-dire que ce sont les produits dérivés qui font vivre la franchise Star Wars. C'est hallucinant. On comprend pourquoi Disney a vite racheté Lucasfilm. Mais ce qui est intéressant à voir, c'est que c'est la première culture d'achat, de merchandising. Donc on achète la figurine, le magazine, le livre, le machin, le truc. Donc on peut pas dire que cette culture geek, elle se soit mise vraiment en dehors du système de marchand et de consommation. Et c'est là que le virage se place, en fait, entre la culture dite de geek le geek pointu et la culture geek massifiée. Mmh. C'est Star Wars, en fait, le basculement. Et c'est surtout l'épisode 2, enfin, qui est en fait l'épisode 4. 5, oui, ça commence au 4, donc 5. Ouais, c'est compliqué. Oh. Et c'est à partir de cet épisode-là que la bascule se fait complètement, parce que c'est la naissance des jouets Hasbro, faits en très grande quantité. Mmh. Et là, vraiment, il y a une culture de masse qui s'installe, et puis c'est la naissance de l'informatique, et tout va se croiser à ce moment-là. Et justement, c'est la naissance de l'informatique. Aujourd'hui, les plus grandes sociétés placées en bourse sont des sociétés de geeks. Mmh. Twitter, Facebook, il y en a d'autres, hein. Microsoft,
ben ouais,
Apple ouais. Et oui, c'est les geeks qui dirigent le monde. C'est un petit peu ça qui est embêtant. C'est qu'aujourd'hui, en fait, on a des gens qui prennent un peu leur revanche sur le monde. Et ça se sent. Ça se sent dans leurs déclarations, notamment quand Mark Zuckerberg a dit qu'il est au-dessus des États et au-dessus de ceux qui l'ont maltraité dans son enfance. Wow. Ça en dit long, hein, quand vous avez dit une phrase comme ça.
Ah ouais.
Et oui, c'est-à-dire qu'en fait, et avec Facebook, il a servi un grand besoin de pouvoir pour montrer que t'es geek, mais t'en as quand même. Hein. Hey, tu peux y arriver toi aussi.
Ouais. Mais c'est ce que tu disais pendant la prépa, c'est lui qui a un compte où il peut avoir des amis en illimité.
C'est ça, c'est le seul compte Facebook qui peut avoir des amis en illimité.
Ah voilà. Ben c'est le patron, quoi. C'est le patron. Je veux dire, il fait ce qu'il veut.
Non,
quoi.
Mais on voit qu'il y a quand même quelque chose d'assez. Et donc, ça te fait dire, notamment à des geeks qui ont écrit depuis des années dans des fanzines, puis après sur des blogs et autres, qu'aujourd'hui, en fait, il y a un blogueur célèbre dont j'ai perdu le nom, je suis désolé, qui dit, en fait, on est passé d'une culture où on se prend pour les gentils dans Star Wars, c'est-à-dire les Jedi, et en fait, on est l'Empire, c'est-à-dire les méchants, ceux qui formatent tout, qui mettent tout comme ils veulent et qui ne laissent pas vraiment de liberté aux autres. Et c'est intéressant parce que voilà, on voit qu'aujourd'hui, cette culture geek, les pires côtés de la culture geek sont aujourd'hui aux manettes et que du coup, c'est un peu emmerdant. Parce qu'il faudrait que les gens qui ont un peu l'envie de revenir à ce qu'était au départ, à l'origine, cette culture-là, se réveillent et puis l'ouvrent un peu, parce que sinon, on voit que les mauvais côtés de cette culture. Et c'est assez intéressant parce que quand on voit ça, en fait, on peut dire que c'est un peu la revanche des losers. Il y avait un film qui s'appelait comme ça dans les années 80, La revanche des losers. Et en fait, ce film, il est marrant parce qu'il avait, sans le vouloir, c'est une grosse comédie, mais il avait un peu fait de l'anticipation. Parce qu'en fait, le plus geek de tous, il devenait une espèce de dictateur qui arrivait à servir tous ses copains. Et puis, tout ça par l'informatique, parce qu'en fait, c'était le seul qui arrivait à faire marcher le logiciel. Vous voyez, ça doit vous rappeler quelque chose aujourd'hui. Vous voyez, c'est intéressant parce que du coup, il y a ce très mauvais côté qui s'est mis en place, l'ultra-capitalisme qui est venu se greffer à une culture qui ramène à l'enfance, qui empêche de réfléchir, comme le dit Simone Pegg, et on est dans ce qu'il y a de pire aujourd'hui. Alors moi, je vais le dire tout de suite, hein, je me dédouane pas, je suis super geek, je vais aller voir Star Wars en avant-première, donc vous pouvez me taper dessus, mais ça me fait réfléchir sur justement les aspects très négatifs de cette culture où on ramène toujours à l'enfance, on ramène toujours au plaisir immédiat, et que finalement, on fait plus vraiment de vivre ensemble, mais on fait juste du vivre égoïste, en fait.
Ouais. Il y a aussi une petite chose par rapport à cette culture, comme tout à l'heure tu disais, tu différenciais les geeks pointus et les geeks de masse. Et il y a un petit peu ce phénomène qu'on voit socialement tous les jours d'élite éclairée qui garde un petit peu le pouvoir, le contrôle, et qui en même temps va essayer de se distinguer en disant nous on n'est pas pareil.
Ouais.
Mais on vous apporte quand même encore une fois une manière de penser, une manière de faire. Ça ressemble un petit peu à ça au final. C'est encore un moyen de.
Alors c'est intéressant parce qu'en fait on voit que même dans cette culture-là, il y a un effet d'élitisme qui se produit et qui n'est pas en fait la base. C'est ce que dit Simone Pegg dans la suite de l'interview. C'est pas la base de la culture geek au départ. Elle est pas fermée sur elle-même. Sauf qu'il y a des gens qui ont compris qu'en devenant l'élite d'une sous-culture, une culture massive maintenant, mais qui est toujours vue comme sous-culture, on peut se permettre d'être très pédant. En fait, au final. Et on voit effectivement.
On a un pouvoir, en fait.
On a une autre forme de pouvoir par le côté. C'est... Ah ouais, mais moi, tu comprends, je continue un petit peu à programmer en ASCII parce que moi, en fait, j'ai pas peur de faire des mages et quand tout va bien. Vous voyez un petit peu le truc. Le langage, de ce coup, vous êtes à côté de la personne. Vous dites, mais de quoi il parle? c'est juste, en fait, une façon de se donner une espèce de contenance, quoi. Parce qu'au final, c'est de la contenance sur de la technique. C'est pas de la contenance sur de la philosophie, sur de la cause. Voilà. Donc, c'est là que c'est un peu emmerdant. Et effectivement, il y a cet écueil-là qui existe et qui n'est pas plus enviable que l'autre. Mais le problème, c'est plutôt de revenir, c'est ce que dit Simone Pegg, à ce qu'était au départ la science-fiction, à ce qu'était au départ la fantasy, c'est-à-dire des outils de critique sociale et pas de les aseptiser comme c'est le cas aujourd'hui, quoi.
Ouais, donc ça veut dire que c'était des outils politiques, en fait.
Clairement.
Qui avait une position politique, encore une fois, hein, quand je parle politique, c'est toujours le mot.
La plupart des auteurs, en fait, de fantasy ou de science-fiction étaient plutôt vus comme des subversifs. C'est-à-dire qu'ils avaient des positions très subversives par rapport à la société. Donc c'est important de voir ça. Le seul qui, d'ailleurs, a réussi très bien, c'est L. Ron Hubbard en créant la Scientologie. Non, mais je dis ça, c'est de la provoque, mais c'est un auteur de science-fiction au départ, ouais. Mais un mauvais auteur de science-fiction.
Ouais. Sauf mais là,
que
réussi,
lui,
hein.
Parce que lui, il comprend très vite, dès les années 50, qui peut créer quelque chose autour de cette culture-là. Oui. Et qu'en fait, il l'utilise à des fins mercantiles très vite. Alors que les autres ne faisaient qu'écrire des livres pour essayer de donner un petit peu des visions de la vie, de la société, de l'avenir. Enfin, je veux dire, il faut être très clair. Alan Moore, qui est un dessinateur de BD et un scénariste de BD, il est classé, il est d'ailleurs anarchiste. Et quand vous lisez les BD d'Alan Moore, il n'y a pas un seul truc où vous ne voyez pas qu'il est anar, quoi. Okay. Sauf qu'Alan Moore, quand on l'adapte au cinéma, hein, n'est-ce pas, Monsieur Nolan avec Dark Knight, parce que c'était Alan Moore qui avait commencé à réécrire la vie de Batman, ben on oublie toute la partie subversive. On oublie les peuples qui se soulèvent en tout seul et qui s'auto-organisent et qui servent et qui n'ont pas besoin des flics pour s'en sortir. On met les flics dans le film, vous voyez.
Mais après, c'est okay. Toute la notion de vouloir arriver à vivre de certains trucs, etc. Et que tu deviens... Bah, tu veux t'ouvrir au plus grand nombre parce que tu as envie d'en vivre et tu veux te faire ton pognon. Et donc... Ça, enfin, il y a un truc, c'est quand ça devient super grand public, enfin, quand c'est fabriqué dans l'objectif d'être grand public, forcément, je pense que ça se vide.
C'est pas obligé.
Après, quelque chose peut devenir grand public, mais c'est parce que les gens se le seront plus approprié, en fait.
C'est pas obligé de se vider de son sens. Le problème, c'est ce qu'en font les studios de cinéma. Parce que ça passe par le cinéma ou la télévision. Parce que même la télé est pas si subversive que ça quand on regarde bien. Mais l'exemple typique, par exemple, c'est V for Vendetta. Mmh. C'est-à-dire, c'est Alan Moore aussi, qui fait une super BD, mais qui a un appel, en fait, à l'insurrection et au soulèvement des peuples. Et comme il dit, les deux personnes qui ont récupéré ça, c'est Hollywood avec le film, qui, comme il le dit, qui est pas trop mauvais, mais qui quand même est très aseptisé par rapport à la BD. Et c'est les Anonymous qui font n'importe quoi. Qui appelle des trucs au nom de la nation. Il dit, mais vous imaginez mon personnage appeler un truc au nom de la nation. Oui, c'est ça qui est intéressant.
Anonymous, qui est encore un truc de geek.
Mais qui est aussi quelque chose de geek.
Et mais toujours dans l'anonyme aussi, c'est sûr.
Mais oui, et vous voyez, cette culture, elle est prégnante de partout. Elle n'est pas. Voilà, c'était ça que je voulais soulever ça, parce que je trouvais ça intéressant, en fait.
Et puis, c'est vrai que encore une fois, la récupération de certains thèmes, parce que tu le disais dans la prépa de cet auteur qui s'offusquait qu'on récupère ses bandes dessinées pour en faire quelque chose aseptisé, qui a décidé de faire une bande dessinée.
Non, c'est Stan Lee, ça. C'est Stan Lee qui, en fait, en a marre des adaptations de super-héros et qui a décidé de lancer sa propre série où sera une héroïne pansexuelle qui fume et qui boit. Voilà. Parce qu'il en a plein le dos. Il trouve qu'on prend ces héros qui sont censés être vachement tordus ou vachement torturés ou machin. Et on en fait enfin, l'exemple que je donnais dans la prépa, c'est Thor. Thor qui est quand même le dieu de la destruction, hein, je vous rappelle, dieu du tonnerre de la destruction, quand même. Qui est un super héros dans l'univers Marvel. Qui dans l'univers Marvel est un parfait connard. Enfin, faut dire ce qu'il est. Parce que c'est le mec qui est un dieu, quand même. Il vous méprise, il vous déteste. Voilà. Il tombe un peu amoureux d'une humaine. Alors il dit, oh, finalement, les humains, ils sont sympas. Mais en fait, le mec, il hésite pas dans la BD à détruire la moitié de New York pour essayer de flinguer son frère. Vous voyez, c'est le fait qu'il y ait la moitié des New Yorkais, il s'en fout un peu, quoi. Voilà. Bah là, dans les films, c'est une espèce de gars bodybuildé très sympa et qui aime beaucoup les humains et puis il faut sauver la Terre. C'est ridicule. Ouais, c'est ridicule.
Mais ça dénature totalement.
Ça dénature
l'œuvre, en fait. Quoi.
Voilà.
Le propos est détourné et réutilisé afin de vendre, encore une fois, je pense.
C'est ça. Et c'est là que c'est intéressant de voir que, ben, effectivement, en se massifiant, une culture, généralement, perd complètement de son sens, quoi. Mmh. Mais on le voit aussi avec la culture queer, on le voit avec tas de choses comme ça, en se massifiant, ben, perdent un peu de leur sens. Et voilà, c'est important. Un jour, on reviendra sur d'autres choses, d'autres cultures.
Est-ce qu'on se mettrait pas un peu de musique?
Oui. Oh, bah, allez. On se la met bien. Hein.
Fais-moi voir ta grosse épée laser.
C'est d'une vie inassouvie.
et 102.2 Radio Canu. Et vous êtes bien à la causerie. Et c'est dimanche. Et il est 22h26. Je vous donnerai pas la météo, sinon ça fait rire Jean-Yves. Alors, c'était un titre des Berruriers Noirs, un inédit qu'ils avaient fait en janvier après les attentats contre Charlie Hebdo et l'hypercachère. Et qu'ils ont décidé, qu'ils n'avaient pas sorti sur le coup. Et qu'ils ont décidé de sortir le 14 novembre après les attentats qu'il y a eu vendredi, dans la nuit de vendredi à samedi. Et je trouve que la chanson est, comme toujours avec les Berru, très directe, très claire. Voilà. Il n'y a pas de guerre sainte, hein, et il n'y a pas de guerre juste. Point barre. Voilà. Et ben, c'est à Jonathan, pardon, et qui va nous parler de quelque chose que je n'ai pas réussi à résumer, donc tu vas te démerder.
J'introduirai cette chronique. La drogue, c'est mal,
ah oui, c'est vrai, c'est ça.
Ok. Non, c'est. En fait, je voulais simplement parler. De l'utilisation de psychotropes dans la cinématographie, donc finalement c'est assez lié à la chronique que tu viens de faire sur les geeks.
Non, les super-héros ne fument pas, ne prennent pas de drogue et sont tous très bien bronzés.
Ils sont clean à fond, sauf Wolverine, fume
c'est
des
vrai.
Cigares.
C'est vrai.
J'aime bien Wolverine. Enfin, dans l'idée, je voulais montrer qu'il y avait dans la cinématographie actuelle et dans tout ce qui est thématique relié à la drogue, cette question de l'illégalité qui est utilisée, encore une fois, dans notre société capitaliste consumériste. Alors, comment ça se passe ? D'abord, je tiens à préciser que c'est une réflexion personnelle sur le sujet, donc il y aura peut-être pas forcément de référence attendue. Je m'auto-exclus de cette élite éclairée qui se propose finalement de toujours mettre une note de bas de page à tout ce qu'elle avance. Voilà. Donc ça c'est dit, le cinéma et les séries donc que nous voyons aujourd'hui qui traitent du sujet de la drogue peuvent amener finalement à faire l'apologie de l'illégalité. Alors, je mets ça en parallèle avec les premiers films dans les années 20 sur Al Capone. Donc durant la prohibition qui était censé proposer aux spectateurs finalement de mieux comprendre la chose et de comprendre pourquoi l'alcool était prohibé et comment finalement les personnes qui qui vendaient de l'alcool illégalement finissaient de toute manière soit sous les verrous, soit morts, soit enfin de toute manière ça finissait mal. Et ce qu'il s'est passé, c'est que le public a développé une affection pour finalement ces personnages qui sont devenus des anti-héros cinématographiques. Et ça a très bien marché. Donc l'industrie cinématographique et de la télévision a décidé, enfin finalement c'est basé sur ces thématiques pour développer cet anti-héros qui est dans l'illégalité et finalement qui fait écho à une part de peut-être chacun d'entre nous, ce petit côté rebelle.
Sulfureuse un peu qu'on
voilà.
a tous en nous.
La part sulfureuse, exactement. Donc, à la base d'un film préventif, on en arrive à un film qui fait l'apologie d'un comportement illégal et de manière détournée. Et c'est une forme d'approbation passive, finalement, des gouvernements, des sociétés qui diffusent ce genre d'œuvre vis-à-vis de comportements qu'ils répriment dans notre société. Alors, on va faire un petit tour rapide hein, de ce type de film. Petite anecdote d'ailleurs, il y a un film avec Humphrey Bogart, qui est un très très bel acteur donc, de ces années-là, qui est donc sur la prohibition, qui s'appelle Angels with Dirty Faces, qui parle de deux garçons dont l'un qui va finir en prison et l'autre non, et comment finalement l'univers carcéral fait pour créer quelque part des criminels. Mm-hmm. Et il y a une expression en fait, quand on fait tourner un pétard et que quelqu'un s'abandonne un petit peu dessus, on lui dit tu bogartes. Ouais. Et ça vient du fait que Humphrey Bogart dans ce genre de film souvent avait tout le temps une cigarette à la bouche. Ouais. Qu'il gardait constamment. Donc voilà, déjà à partir de là, on crée des expressions.
Sachant que le film au départ est un film anti-prison, qui est volontairement anti-prison, qui
exactement.
Explique que la prison telle qu'elle est faite détruit les êtres humains plutôt que de les réhabiliter. Quoi.
Mais ouais. C'est tout à... voilà, c'est le. Partons de là, justement. Comment, finalement, un film anti-prison va faire l'apologie de la criminalité et le fait, finalement, transformer ce personnage pour qui on a de l'empathie, qui est allé en prison parce qu'il a fait quelque chose d'illégal, qu'il a rencontré d'autres personnes qui ont fait d'autres choses illégales et en s'associant avec eux vont faire quelque chose encore plus illégal. Comment on l'a rendu sympathique? Comment, finalement, le public s'est mis à adhérer à ce genre de comportement? Et c'est quelque chose qu'on retrouve aujourd'hui dans certains films, par exemple, pour commencer, Le Parrain, ou Blow, ou Scarface, qui sont des films finalement qui vont prôner bah, voilà, toute cette activité de vente. Donc là, on est dans le commerce et encenser un petit peu cet être ultra-capitaliste qui va réussir à percer dans un milieu totalement illégal, un milieu de mafia, et qui va arriver à ses fins. Avant de retomber, parce qu'il y a un côté moralisateur. Mais là encore, toute l'ascension du personnage est mise en scène de telle manière que lorsque le spectateur le regarde, il ne peut que l'admirer. Il ne peut que voir finalement la puissance, le pouvoir de cette personne qui, par une activité illégale, finit par avoir une reconnaissance sociale. Donc déjà, on est dans une forme de création de modèle d'un personnage charismatique qui va attirer les personnes qui ont besoin de ce charisme-là et qui vont, du coup, dans ce modèle se retrouver, essayer peut-être, chacun suivant son envie, de reproduire ça.
Et toujours dans un système super capitaliste.
Mais de toute manière, ça passe par là. C'est-à-dire qu'à partir du moment, soyons bien clairs, qu'on parle de vente de drogue, on parle d'exploitation de personnes qui produisent cette drogue.
Ouais.
Et on parle aussi d'exploitation de gens qui vont devoir la faire passer jusqu'à l'exploitation du consommateur qui, quand on va lui vendre de l'héroïne, on va de toute manière savoir qu'on le tue, mais il faut bien que ça rapporte de l'argent.
Ouais.
Voilà. Donc là-dessus, on est tout à fait clair. Donc ce fameux modèle, finalement, cette création de stéréotypes, va entraîner chez le spectateur une envie peut-être de reproduire ses comportements, et c'est totalement interdit dans notre société. Donc créer une certaine forme de frustration. Comment ? C'est facile de faire de l'argent, c'est facile d'arriver au pouvoir, mais moi je ne peux pas. Donc on va avoir certains phénomènes, par exemple chez des jeunes de banlieue, désolé pour l'expression triviale, qui vont se reconnaître dans ces personnages-là, très charismatiques, et vont se dire, moi, de toute manière, je vais vendre de la drogue, et après, j'aurai une grosse voiture et du pouvoir, etc. Et puis bon, qui vont se retrouver en prison, et qui vont après évoluer de manière diverse et variée, mais qui de toute manière vont être arrêtés pour ça, alors que le film leur aura fait miroiter, toute cette série de films leur ont fait miroiter que c'est possible, et que finalement, la seule échappatoire, c'est la mort, parce que Damblo, il finit en prison, mais très vieux, puis ouais. Il finit même par retrouver sa femme en prison. Donc, enfin, voilà, il y a une espèce de création mythologique. C'est vrai, c'est tragique, mais c'est pas si grave. Par contre, tout ce qu'il a fait avant, c'est donné, quoi. Voilà, c'était génial. Donc déjà, rien que ça, voilà, ça me gêne. Mais il y a un deuxième type de film aussi qui peut me un petit peu me gêner, c'est tout ce qui va être film humoristique autour de la drogue. Alors là, ce sera des drogues un petit peu plus douces. Généralement, on parle de pétards, on parle... Donc, je pense aux séries avec Cheech and Chong. Donc, ces deux personnages humoristiques qui ne font que fumer tout le temps et qui se tapent des délires, des road trips de malades pour, par exemple, trouver un burger ou la buzz. Donc film français avec Michael Youn où ça finit très bien d'ailleurs, les policiers sont défoncés. Enfin, c'est un humour sur la drogue qui, au lieu de présenter les choses de manière intelligente et d'essayer d'amener une réflexion sur comment la consommer et comment on la produit, parce que dans la buzz il y a de ça aussi, il y a un commerce d'une la Deuxième Guerre mondiale qui est trouvée dans un sous-sol. Enfin, ça va complètement dédramatiser toute la question. Et comme on est sur ce qu'on appelle des drogues douces, ça va rendre les personnages finalement qui sont des dealers, ou chez Cheech and Chong des gens qui sont des drogués, parce que voilà, ça existe. À ce moment-là. Tellement sympathique qu'on va encore une fois créer une forme de modèle. Et là, par contre, c'est là où c'est très subtil. C'est qu'en soi, personnellement, l'utilisation de la drogue, je suis pas contre.
Non, voilà. Clairement, ouais, c'est pas.
C'est quelque chose qui, voilà, beaucoup d'animaux, d'autres animaux que les humains se droguent aussi. C'est quelque chose qui est assez, sans dire que c'est naturel, c'est quelque chose qui est social. C'est l'alcool, c'est de la drogue. Mmh. Le café, c'est de la drogue aussi. C'est, voilà, hein, qu'on soit bien clair. Les clopes, c'est de la drogue. En revanche, quand on présente ça de manière trop légère, on n'explique pas qu'il existe quand même des risques et qu'il faut utiliser ça intelligemment et que c'est plus facile de tomber dans le piège comme ça. Et là, on arrive à une oppression par frustration des personnes qui vont trouver ça fun, qui vont l'utiliser, qui est donc là, on est chez les consommateurs, hein, plus chez les producteurs, les vendeurs, mais, et finalement, on leur dit, c'est interdit, tu vas avoir des amendes, tu vas te retrouver, bah, toi aussi, avoir des problèmes, aller en prison, etc., parce que tu as voulu éprouver un petit peu de fun une fois, qui vont pas se rendre compte aussi des dangers qu'il peut y avoir à ça, parce qu'on est plus ou moins tolérant vis-à-vis de, voilà, vis-à-vis de toute substance psychotrope. Et du coup, cette espèce de, c'est comme si on avançait quelque chose sans prévention. Sans prévention, sans rien, quoi. On crée la frustration, en fait, chez le public en lui disant, par ce genre de film, vas-y, consomme, c'est au top, il n'y a aucun problème parce que tu vois, on en rigole. Alors que c'est pas dramatique, mais il faut le prendre au sérieux.
Mais je crois que c'est la législation qui fait ça aussi. Parce que comme en France, on n'a pas le droit de parler, par exemple, du cannabis pour dire comment le consommer correctement. Parce que sinon, on fait l'apologie de. Oui. Et bah, du coup, on le fait sous le mode comique où surtout, on n'aborde pas la question de la consommation. Et il faut surtout montrer que des effets extrêmes. C'est-à-dire, les gens, ils sont scotchés au plafond, machin. Et surtout pas parler simplement de l'effet récréatif, du côté sympa, du fait que ça peut se consommer entre potes, mais sans être voilà. Et je pense que la législation fait aussi que du coup le film devient fait l'impasse là-dessus parce qu'il a pas le choix. Sinon, il est dans l'illégalité, quoi.
Très bonne transition parce que j'en arrive à une troisième catégorie de films qui va là être un petit peu plus dramatique. Donc, on est dans le pathos, la dramatisation de la drogue. Donc, par exemple, ces films comme Trainspotting où heureusement à la fin le héros s'en sort, ou alors Requiem for a Dream où malheureusement à la fin les héros ne s'en sortent pas. Ou tout ce.
T'as spoilé deux films là, t'es au courant.
Oui. Alors, je vous le dis. Je spoil. Officiellement, je spoil. Voilà. Donc, ces deux films qui représentent, donc, c'est des films sur l'héroïne, hein, principalement, avec d'autres drogues autour, mais voilà, qui représentent des extrêmes dans la consommation de drogue. Tous les fumeurs de joint ne sont pas héroïnomanes, sauf que, justement, par ces films-là, comme il y a cette consommation, bah, finalement, de diverses drogues, hein, donc on y revient, de la cigarette, l'alcool, jusqu'à l'héroïne, on va créer dans les pensées de certaines personnes qui ne sont pas renseignées, encore une fois, question de législation, une forme de panique, de peur de ce qu'il pourrait se passer si jamais quelqu'un autour de toi fume un pétard ou boit trop d'alcool. Et à ce moment-là, on crée une sorte de police quotidienne. Donc, je tiens à signaler que je t'ai piqué le terme.
De rien.
Donc voilà. Donc c'est une exagération qui va en fait chez les gens non renseignés créer une forme. Oui, voilà, c'est ça, de police, de milice finalement des mœurs, et qui va du coup faire le travail de l'État, mais d'une manière tout à fait exagérée, c'est-à-dire je vais t'empêcher de consommer de la drogue, je vais t'empêcher de devenir complètement fou et de voir des bébés morts, je vais t'empêcher de finir avec un bras en moins, je vais t'empêcher, enfin, ces extrêmes-là, c'est des exemples pris donc justement dans ces deux films que je viens de vous citer. Alors, qu'est-ce que ça fait, toute cette petite oppression, cette petite frustration finalement, hein, chez les spectateurs? Eh bien, ça dessert très très bien la société de consommation. Pourquoi? Parce que
ça la sert, tu veux dire?
Oui, ça sert très bien. Excusez-moi pour le petit fourchage.
Oui, non, mais je me disais, il y a un truc qui colle pas.
En effet, tu fais bien. Donc c'est alors d'un côté, il y a, comme je le disais, cette approbation passive, donc des puissances qui permettent la diffusion de ces films-là, et d'un autre côté, des personnes qui le reçoivent et du coup qui vont assimiler ces comportements des diverses manières dont je l'ai présenté. Et Excusez-moi, j'ai perdu le fil, mais j'y reviens tout de suite.
Tu disais que ça servait la société de consommation.
Voilà, parce que quand finalement, bah, quand on expose un problème, comme celui de la drogue qui va être exposé de diverses manières, on propose de vendre des solutions aussi, ou de vendre de la drogue. Parce que quelque part, c'est ça aussi, c'est sans parler d'incitation à la consommation, c'est pas vrai. Mais voilà, le gamin qui a envie d'aller, je sais pas moi, revenons-y, fumer son pétard, va trouver plus facile d'aller l'acheter à quelqu'un, il sera peut-être arrivé de je ne sais quel pays, plutôt que de faire pousser chez lui, parce que de toute manière c'est illégal, ou ce genre de choses. Ou alors... parce que c'est illégal. Voilà. Ou alors, essayer de tenter tout et n'importe quoi parce que bah, finalement c'est fun, etc. Donc déjà là, on est dans la société de consommation voilà, de la drogue. Mais après, à côté de ça aussi, tout ce qui va autour, on parlait de produits dérivés, mais il y en a aussi. Quand dans certains magasins, on peut acheter des pipes en verre, donc qui sont des pipes à crack. Voilà, ouais. Quand des bongs, des trucs comme ça, et que ça, c'est pas du tout illégal, et d'ailleurs, ça se vend très bien. Et puis, toute l'image qui est autour, donc je n'ai pas envie de critiquer les hippies, mais tous ces fringues qui coûtent extrêmement cher avec des dessins psychédéliques et des. Enfin, voilà, qu'on trouve dans des boutiques de hippies. Toutes ces choses-là, voilà. Donc c'est tout un pan de la consommation aussi, et c'est une manière aussi de reconnaître les personnes, de les faire entrer, bah, finalement, dans une forme
de communauté.
De communauté, donc à la fois une petite fierté d'appartenir à telle communauté parce que je m'habille comme ça, j'ai un bong de telle couleur, j'ai un machin, j'ai un truc, et à côté de ça aussi d'être stigmatisé par bah, les personnes qui se voudraient police quotidienne, comme je l'ai dit. Donc c'est comment un système capitaliste utilise une approbation passive de la population pour créer de nouveaux modèles de consommation, de nouveaux besoins de consommation aussi, et finalement créer une frustration permanente, parce qu'on le sait bien, le meilleur moyen de vendre quelque chose, c'est de créer une frustration. Qui dit frustration dit création de besoins, et là on a la porte ouverte à un nouveau marché, à quelque chose qui qui va se développer. À partir de là, j'aimerais aussi faire une petite remarque, c'est tous les produits dérivés qui vont avec, les t-shirts Scarface par exemple, il y en a pas mal, Tony Montana, c'est respect, tout ça. Si on avait fait, alors il faut savoir que Scarface c'est quand même aussi comment rentrer dans un milieu pourri.
Oui, finalement. Parce que c'est l'ascension d'un petit dealer qui devient le grand patron d'une.
Exactement.
Enfin, pas le grand patron, enfin, celui le grand patron de la mafia, quoi.
Voilà, mais.
Avant de se faire dézinguer.
C'est ça. Et c'est comment rentrer dans un milieu dont on ne sortira pas. Il y a d'autres films, par exemple, qui sont très intelligents, qui pourraient parler à des jeunes qui seraient en quête de réflexion sociale, comme la haine, mais eux, on n'en fait pas des t-shirts. Parce qu'à un moment donné, par le consumérisme passe aussi une propagande. Et si on propage l'image de Scarface et qu'on ne propage pas l'image de Vincent Cassel dans La Haine, c'est peut-être aussi parce que c'est bien pratique, hein, de laisser les gens là où ils sont, de pas trop leur donner l'idée. Parce que dans La Haine, hein, je le rappelle, l'idée c'est de sortir de ce milieu-là parce qu'il est violent, et ça en montre la violence, et c'est comment des jeunes vont finir par rejeter ce milieu. Alors qu'à la base, ils y étaient complètement intégrés. Donc, si on ne fait pas finalement de merchandising sur ce type de film et qu'on en fera plutôt sur des films comme Scarface, c'est aussi un moyen de dire aux gens, voilà le modèle qui va, voilà comment vous pouvez vous développer, vous, dans votre coin, là où on ne vous regardera pas, là où vous ne ferez chier personne aussi. Hein, pour parler vulgairement, reste dans ta cité, va vendre du shit, essaye de devenir le patron de ta cité, mais surtout, n'en sors pas. Surtout, n'essaye même pas d'atteindre autre chose. Ne t'imagine pas qu'il puisse y avoir quoi que ce soit d'autre pour toi à l'extérieur. Et ça, c'est terrible. Et en France, on le voit.
Ouais,
c'est voilà. Donc, voilà, des films qui avaient pour but premier une catharsis, hein, donc le fait d'expulser des problèmes de société, devient de véritables outils d'oppression et de consumérisme, et ça me choque. Voilà, ça me choque, et ça valide de toute manière tout ce qui est dérivé de ça,
Je me permets, mais pardon. Ouais. Je vais essayer de faire pas long. Non, en fait, j'ai une interrogation, ça m'interroge vachement tout ce que tu dis, parce que le problème en soi, c'est pas tant les créations qui pourraient être comprises comme comme promotion ou pas, qui, enfin, selon moi, après je peux me tromper, mais c'est plus après qu'est-ce qu'on en fait. Enfin, c'est toujours, est-ce qu'on parle des films, est-ce que finalement on renvoie pas juste des gens devant un écran, regarde, gaffe-toi, et puis après bah, tu rentres chez toi sans en avoir forcément discuté. Enfin, c'est, est-ce que c'est pas finalement le manque de société qui fait que bah, des mecs un peu quand même montrés pour être démontés. Enfin, je pense, les mecs de la mafia, etc. C'est pas pour qu'on leur ressemble.
Bah non, non. Puis mais... même dans les séries positives, on va dire, comme Wiz ou autre, où en fait, elle s'en sort en, en dealant de l'herbe, il y a quand même le côté négatif qui est montré. C'est-à-dire qu'elle est obligée, à un moment donné, de, quasiment de se prostituer dans la première saison pour survivre, hein, parce que je rappelle qu'elle essaie de survivre dans un, suite à la mort de son mari. Et en fait, le truc, c'est que souvent, les gens retiennent pas ça. Parce qu'en fait, on c'est pas ce qu'on met en avant. C'est-à-dire qu'on met en avant, c'est le mug weed. C'est pas la série en elle-même, quoi.
En fait, on pourrait croire qu'on laisse les gens juste apprécier l'œuvre sans. Mais en réalité, il y a dans tout. Par exemple, pour les séries, quand on fait un teaser pour une série ou pour un film, qu'est-ce qu'on montre? Comment on le montre? Comment on l'amène? Et ensuite, comment on le récupère? Comment dans le merchandising derrière, mais aussi dans le débat que ça peut. Les critiques de cinéma aussi, comment une critique sur un film sur la drogue va se présenter, c'est rarement en disant voilà, c'était censé être un film qui montre ça, ça et ça, non, ça va être super bien, profondeur des personnages machin. Parce que quelque part on ne se rendra pas compte de ça, c'est ancré, c'est déterminé socialement, le fait que ce qui est déterminé à ce moment-là, en fait, c'est que justement, il y a ces modèles, ces choses-là qui passent à travers ces films-là, et on ne cherche pas à les démonter. On ne va pas en fait, il ne va pas y avoir d'action pédagogique vis-à-vis de ça, mais vis-à-vis de. On pourrait parler d'autres types de films aussi, hein, et d'autres types d'œuvres de diffusion qui relèvent exactement du même problème, mais il n'y a aucune pédagogie derrière pour aider le spectateur, le public. À appréhender la chose.
Mais c'est ce que tu disais, il n'y a plus de société.
Ouais,
en fait.
C'est ça, en fait.
On fait plus société, on fait.
Oui, parce qu'avant, tu pouvais parler d'un truc, mais aujourd'hui.
Mais ça rejoint ce que je disais sur l'univers.
Ouais, c'est ça, on est dans une société où tu te retrouves souvent très seul, enfin, seul en tout cas, et que ça entraîne effectivement l'isolement, et nanani, enfin bon, bref. Ouais.
Ouais.
vu l'heure, on passe à la musique ?
Allez.
Oui.
Hey man, check this out, I got the best kush ever, man. Oh man, I've been so out. Oh, you got sent from heaven, all right man, light it up, Holmes. Okay, check it out, man. Yeah, it's time to play that. Me that lager. Original Dr. Green Thumb, the rest of liars. I'm the one with the prescription to get you higher. I got every type of weed that you might desire. Go ahead, fire it up, maybe you can get inspired. Any kind of flavor you savor, I can do you the favor. Just as long as you share with your neighbor. Some like the sour D, that's an East Coast swing. But on the West Coast, we all know Kush is queen. Some of y'all will smoke anything but me, I'm picky. I throw it out if I don't see that it's green and sticky. No stress, no push, I'm pushing the Kush. When I harvest, put a K on the bag, like the Nike squish. All over the world, in case you wonder, I smoke everywhere I went, they call me the weed hunter. But no one does it better like we do in Cali. Just ask one of my patients, cause they always tell me that the
K-U-S-H keeps us so high. K-U-S-H keeps us so high. The more I smoke, the higher I get, the better I feel. Can't quit. The more I smoke, the higher I get, the better I feel. I can't quit.
Cottonmouth Kings up down with us. Snoop Dogg and Dre up down with us. Cheech and Chong, they're down with us. But the DEA, they can get the nuts. On the High Times cover, you might see us taking hits from the bong with the 8-foot song. With weed so strong to knock out King Kong. Hit it one good time, your mind's gone. Your eyes get red and your mouth goes dry. Just hit me
when you want more and all supply. Red and mess and let's get stoned. I said how high? They said high enough to touch God and kiss the sky. That's a tall order, but I think I got what you need. I got the food for thought and I'm ready to feed. So follow my lead, I got the gifts to bring. It's an everyday life of the Reefer King. K-U-S-H, keep us so high. K-U-S-H, keep us so high. The more I smoke, the higher I get, the better I feel. I can't quit. The more I smoke, the higher I get, the better I feel. I can't quit.
I got the cream of the crop. My crop means cream. When it's time to bag it up, I assemble the team. We're like the Yankees, most winning grand champs of the earth. Nothing gets you like the type of medicine I serve. Lawyers, teachers, actors, street cleaners. No matter what they are, they all come to see the reefer. They stay hot 24 like Kiefer. I tell them don't hit it too hard. This is a creeper. Woody Harrelson is down with us. Bruce Willis, Mozart's down with us. Yeah, Willie Nelson is down with us. You think drives the country bus? Dionne Warwick, she's down with us. She got popped at the airport with Joyce and such. So if anyone asks, she's down with us. And you don't wanna enter my weed in the cannabis cup. I'm green thumb, I reign supreme. Son, the strain better than mine, I never seen one. The K-U-S-H keeps you so hot that you can't concentrate. Dave Chappelle is down with us. Halle Berry too, but don't tell no one. KRS-One is down with us. He's a blunt getting smoked and he can't wake up.
K-U-S-H, keep us so high. K-U-S-H, keep us so high. The more I smoke, the higher I get, the better I feel. I can't quit. The more I smoke, the higher I get, the better I feel. I can't quit.
C'était K-U-S-H, Keeps Us High de Cypress Hill, ce qui veut dire garde-nous bien là-haut, et ça parle de cannabis. Voilà.
Ok.
Voilà.
Eh bien, on va le dire aux auditeurs et auditrices qu'on ne fera pas le troisième sujet prévu. On va passer directement au bref, parce qu'on a un peu mangé le temps.
Ouais.
Donc,
ouais.
On va vous parler...
À la rigueur, si, juste ce que je vais faire, c'est que je vais quand même vous filer le titre de la BD dont je voulais vous parler.
Mais t'en parleras la semaine prochaine.
Ouais, mais je me dis juste qu'il y a peut-être certains ou certaines qui nous écoutent qui vont peut-être se dire, tiens, je peux aller le chercher, j'ai envie
c'est
de le
vrai.
Dire. Ça s'appelle Mal de mer de Roderick Valenbois. Et ben, c'est une BD, ça parle d'une famille, d'un enfant, d'alcoolisme.
Teaser.
Et tout ça.
Et vous en saurez plus.
Ouais,
si
j'en reparle la semaine prochaine. Ben
la
voilà,
causerie la semaine prochaine.
Autant filer au moins le nom. Et ben. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait les brèves.
Ouais.
Allez, on fait les brèves.
C'est toujours le mois libertaire.
C'est ça, c'est le mois libertaire. À Lyon, novembre, on s'installe partout. Pardon. Et ben, ça reprend, selon les infos que j'ai, ça reprend mercredi 18 novembre, donc, avec une conférence de Philippe Pelletier, qui est un géographe libertaire. Et le thème sera « Climat et capitalisme vert ». Ça se passera à la librairie La Griffe, un lieu que vous connaissez, je pense. C'est dans le 7e arrondissement. Et si vous ne le connaissez pas, allez-y, parce que ça se passe toujours très bien. Et donc, bah, ça sera. Je ne sais pas si c'est suivi d'un truc. Ah, bah, si, il y a une collation qui suivra.
Plus de collation.
Voilà.
Mais on
donc,
sait
ça commence, j'ai dit l'heure ou pas ?
19h,
pardon, je suis désolé. C'est...
Et non, mais tu l'avais dit. Et okay. Philippe Pelletier a souvent des positions qui sont très contestées. Donc, venez l'en parler directement avec lui.
C'est vrai, et puis on l'avait, je crois l'année dernière, mais c'est toi qui l'avais interviewé avec Laurent.
Avec Laurent, du Canu Info du jeudi, l'équipe du Canu Info du jeudi.
Et du Noise Pollution.
Voilà, et de Noise Pollution, ouais, mais bon, ça c'est pas tes
émissions. Non, ça fait du bruit.
Non, c'est pas
non, vrai, non, et que, enfin, justement, et que même, enfin, Laurent est assez porté par certains thèmes, écolo, etc., ouais. Écolo, et il disait, enfin, que c'est un très bon débatteur, ce Philippe Pelletier, donc effectivement, je pense que vous pouvez y aller pour débattre, en tout cas, c'est très bon. Le jeudi 19, ça continue avec le concert de Fabi Caton à la coopérative du Zèbre qui se trouve rue Jean-Sébastien C dans le premier arrondissement. Et ce sera bah, au chapeau. Voilà. Et on continue le jeudi 19 novembre toujours. C'est une porte ouverte.
Où il faut sonner.
C'est ça. Au LOL, au laboratoire, je ne sais plus.
Ouvert Lyonnais.
Donc effectivement, il faut sonner. C'est dans le premier arrondissement, cette place Louis Chazette. Et c'est de 14h à 23h. Allez, j'en fais encore une, parce qu'il y en a encore d'autres hein, derrière. Hein.
Donc tu vas passer la feuille, tu sais, que t'entraînes.
Ah bah c'est un peu l'idée, ouais, vous allez contribuer au truc. Hein. Okay. Il y a le vendredi 20 novembre, c'est François Mallet, c'est Cabaret Libertaire avec François Mallet. Chanson libertaire, tendre et rugueuse, un moment chaleureux et à partager et à chanter. Et la compagnie Clameur Public. Et c'est des textes tirés de la zone du dehors d'Alain Damasio.
Et si vous écoutez de temps en temps le Blues des Canus sur Radio Canu le mercredi après-midi, vous avez déjà entendu du François Mallet.
Ah,
eh ouais.
C'est de là que j'ai entendu. Et alors, attends, tout ça, mais j'ai même pas dit où ça se passait.
Ben oui.
Ça se passe au restaurant Les Galets Bleus, ouais, en fait, c'est tout un truc. Il y a le repas avec, tout ça, je crois bien. Et la réservation, elle est conseillée et c'est au 18 rue Payron, dans le 4e arrondissement, à partir de 19h. Voilà, bah, là, t'as le petit truc.
Oui, je vois, il y a un petit truc. Alors, attends. On est où?
Ah ben voilà.
Je suis perdu, pardon. Alors, Le Vent de la Révolte, voilà. C'est une projection du film Le Vent de la Révolte de Aleti del Umbria, je crois que ça doit dire comme ça, à la Maison de l'écologie, 4 rue Baudin, dans le premier, à 15h. Donc, c'est le samedi 21 novembre. Voilà. Et alors, je cherche la suite.
Non, mais laisse.
Non, mais je vais y arriver. Calme-toi. Non, mais je suis très calme. Ah, c'est à 4, c'est ça. Voilà. Alors, toujours le 21 novembre, un spectacle. Et l'humain alors, spectacle d'après l'œuvre de Fernand Deligny par le comédien Bernard Meulien. C'est à la librairie La Griffe, 5 rue Sébastien Griffe, à 19h, samedi 21 novembre. Et le 21 novembre, vous, avant d'aller à La Griffe, vous repasserez au LOL parce que c'est toujours porte ouverte. Il faut toujours sonner. Voilà. Et après, je le dis parce que voilà, on espère normalement l'avoir dans la causerie. Il y a Mathieu Rab qui présente son livre autour de la commune de Lyon. Je vais y arriver, hein, vous inquiétez pas. Les communards à Lyon, pardon, les insurgés, la répression et la surveillance. Et il sera avec un autre auteur qui est Laurent Gallet, qui lui présentera Machination et Artifice, Antoine Sivost et l'attentat de Bellecour. Donc deux grands événements autour de l'anarchisme à Lyon. Et c'est au Cédrats, 27 montée Saint-Sébastien, dans le premier, à 15h, le samedi 21 novembre. Voilà. Et on continue, dimanche 22 novembre, et ce sera le dernier pour aujourd'hui. Je vous invite à vraiment aller voir Laurent Dioux, qui va lire des extraits de son roman totalement fou, mais qu'il faut avoir lu une fois dans sa vie, qui s'appelle Henriette et le bonhomme Bobine. Et c'est à la Lutine, 91 rue Montesquieu, dans le 7e. Voilà, c'est un auteur qu'on avait aussi interviewé avec les copains du Cri du Ralliement.
Ah voilà, c'est
lors
ça que je
du salon
des éditions libertaires.
L'année dernière. Allez rechercher l'interview, c'est magique. Quoi. Voilà.
Ouais.
Et l'interview est à l'image du roman. Donc voilà, ça vaut vraiment le coup. Donc Atelier des Canulars, 91 rue Montesquieu. Et j'ai pas l'heure par contre, je suis désolé. Ah si, 16h, pardon. À 16h, donc pour une lecture. Voilà.
Yes. Et eh ben normalement, je crois qu'on l'avait peut-être mis sur le blog, en fait, le programme.
Oui, il est sur le blog, ouais, ouais. On le remet.
T'avais une info aussi?
Moi, j'ai une contre-brève.
Ah ben, vas-y.
Donc, cette semaine, c'était le festival du film court à Villeurbanne, au cinéma oui. Le Zola. Et la petite info, c'est qu'en raison des événements récents, du coup, au moins jusqu'à mercredi, les projections sont suspendues.
Ouais, ce qui remet un petit peu le festival, il devrait être annulé cette année, quoi.
Voilà.
Pas totalement, mais il n'y aura
mais
peut-être pas de prix.
Du coup, voilà. Voilà.
Ça plombe l'ambiance.
Est-ce qu'on parlerait pas de l'appel à dons par hasard? Vous voulez que je vous parle de l'appel à dons?
Ah oui.
Je vais vous parler de l'appel à dons. Vous pouvez donner des sous à Radio Canu pour qu'elle puisse faire des trucs super cool dans vos oreilles. Et pour ça, en fait, il suffit d'envoyer soit un chèque, soit des billets, soit votre carte bleue à Radio Canu.
Avec le code, hein, sinon on peut pas s'en servir.
Avec le code. Avec le code, toujours. Radio Canu, BP 1101, 69 201 Lyon CEDEX 01. Ou alors vous pouvez venir nous voir aussi directement. Hein. Et puis vous
les mardis surtout de 19 à 20h.
Les mardis de 19h à 20h. Et puis vous pouvez également nous faire des petits virements hein, directement depuis votre banque, depuis votre ordinateur, depuis tout ça. Et vous trouverez toutes les infos nécessaires sur le site de Radio Canu, radiocanu.org.
Ben voilà.
Et ben oui.
Ouais. Et il est 23h01, c'est magnifique.
Oui, mais je veux juste... Ah. Non, mais je voulais juste...
on aurait presque pu finir alors.
Un petit truc que je te laisse présenter, c'est que pour ceux qui ont écouté Radio Canu aujourd'hui depuis ce matin, il y a une émission qui d'habitude est lundi et qui s'est glissée aujourd'hui entre 14 et 15h qui s'appelle Mountain Was The Tug. Et ben moi, je vous conseille d'écouter Mountain Was The Tug parce que c'est vachement sympa. Voilà.
Ah oui. Ok. C'est gentil. Et ben voilà. Et ben quoi qu'on vous dise, on vous dit à la semaine prochaine.
Ou pas.
On verra.
Ouais, non, chacun il fait ce qu'il veut. On est d'accord.
Ça va. Hein.
Non mais à la semaine prochaine.
Oh, tu fais le malin. Spécial casse dédié à quelqu'un qui me reconnaîtra.
Et ben voilà, ça c'est fait.
Allez,
le fou bon, rire. Le
on
fou
va
rire.
Se faire plein de petits bisous.
Oui. Et puis on va dire aux gens, le meilleur moyen de combattre la peur, c'est de danser, rire et chanter.
C'est ça. Et on va terminer par un titre de Dubamix. Et le titre s'appelle donc. Classe Wardub. Merci, c'est moi qui l'ai choisi, je m'en souvenais plus. Mais voilà. La lutte des classes.
Voilà, t'avais envie de dire quelque chose.
Bah, c'est juste que la lutte des classes. Le reste, c'est qu'une lutte de pouvoir, etc. Donc voilà, enfin, juste bref. On va pas continuer bref longtemps là-dessus. J'ai mis beaucoup de bref là-dedans.
Bref.
Je pense qu'il est vraiment l'heure qu'on.
Bref, je fais une émission de radio.
qu'on rende l'antenne aux bandes continues qui nous remercieront gracieusement.
Voilà.
Ouais, enfin, ça a vraiment pas de sens.
C'est vrai que pour une fois qu'il n'y a pas d'émission derrière nous, je trouve qu'on est vachement à l'air.
C'est ça.
Allez, c'est parti pour la musique.
Allez, bonne semaine.
Bon courage.
Bon courage. Ciao.
Bisous.
Ouais, des bisous, salut. C'est vrai ça. Des bisous, c'est important. T'as le droit de mettre play. Hein.
Allez, j'y vais. Bonsoir.
Ciao.
Pour nous rappeler que quand il n'y a pas de lutte collective victorieuse, quand la solidarité n'est pas à l'ordre du jour, eh ben c'est pas l'espoir qui prime, c'est la peur. L'histoire, elle est là pour nous rappeler. Et la peur, elle est mauvaise conseillère, parce qu'on dirige la colère vers l'autre plutôt que de s'en prendre à ceux qui sont vraiment responsables.
Les profits des entreprises du CAC 40 en forte hausse. Les profits CAC 40.
C'est une inégalité sociale. Ceux qui sont vraiment responsables.
Les profits CAC 40.
C'est une inégalité sociale. Ceux qui sont vraiment responsables.
Ils nous accusent, nous, travailleurs immigrés, que nous sommes une menace pour la sécurité des Français.
Il n'y a pas trop d'immigrés dans ce pays. Il n'y a pas trop d'immigrés. Il y a trop de racistes. Il n'y a pas trop d'immigrés dans ce pays. Il y a trop de racistes.
Il faut s'unir.
rappeler, qu'histoire elle est là pour nous rappeler, qu'histoire elle est là pour nous rappeler.
Et insulté bien pire qu'un chien. Et qu'il faut pour que ça s'arrête.